Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. À suivre, Eva Rock pour son zapping du lendemain spécial disparition. Et Bertrand Chameroy qui n'a pas disparu. Ce sera son écran de veille spécial sanitaire. Franck Tilliez ensuite, l'écrivain, non pas pour un nouveau roman, mais pour le tome 4 de la BD à succès, s'appelle La Brigade des cauchemars. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu. Et puis dans Les Indispensables, un roman qui nous emmène à Wuhan, en Chine, avec Nicolas Caro, et un festival de piano avec l'Or d'Autriche. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Bonjour Bertrand Chameroy.
Bonjour.
Content de vous retrouver tous les deux. Bertrand, c'est l'heure de votre écran de veille. Ce qui a retenu votre attention à la télévision hier soir, c'est la prise de parole que tout le monde attendait.
Oui, celle du ministre de la Santé, Olivier Véran. Elle était retransmise en direct sur les chaînes info, des chaînes qui se tirent la bourse et la course à l'échalote, comme on ne dit plus depuis 1974.
Oui, c'est vrai.
Chaque semaine, LCI propose son rendez-vous intitulé 100% politique. Et en voyant ça, BFM s'est dit « Oh, on est foutu. Ils ont lancé 100% politique, faut qu'on trouve un truc plus fort, sinon on va se faire bouffer ». Plus fort que 100% politique, ça paraît difficile, mais impossible n'est pas BFM. Écoutez avec quoi ils ont contré.
Il est 19h, nous sommes ensemble jusqu'à 21h. C'est l'heure de 120% news.
Non, 120% news. Alors LCI, on la ramène moins.
Mais parce que ça dure 120 minutes peut-être.
C'est peut-être pour ça aussi, oui.
Ils peuvent te faire 150, oui, oui. Ils peuvent ne jamais s'arrêter.
Aux commandes de Thomas Misraki, journaliste, mais également, et peu de gens le savent, sosie vocale de Patrick Bruel quand il parle de chiffres alarmants.
Les tout derniers chiffres qui nous sont parvenus aujourd'hui, des chiffres alarmants notamment en Ile-de-France.
Alors, regarde un peu. Le point presse numéro 15734 en provenance d'Olivier Véran, départ initialement prévu à 19h et parti avec un retard d'environ 20 minutes, au grand dam de Thomas Misraki qui s'est adressé directement au ministre, comme s'il accordait sa déclaration en exclusivité pour BFM et qu'il l'entendait.
Monsieur le ministre, pardon, mais vous avez 13 minutes de retard. Nous, on va attendre, on ne bouge pas. Hein. Tant qu'on n'a pas vos annonces ce soir, ce sera en direct.
Alors, ça ne sert à rien de lui parler, Thomas. Il ne peut pas vous entendre. On dirait ma grand-mère quand elle parle à Cyril Ferraud devant Slam. Ça ne sert à rien. Une vingtaine de minutes plus tard, enfin, le moment tant attendu est arrivé. Début du point presse d'Olivier Véran sur BFM.
Petit problème technique, vous l'aurez constaté, nous allons régler ça et nous allons revenir évidemment pour écouter Olivier Véran.
Écran noir, pas de son, c'est vraiment pas de chance. BFM s'excite depuis 8h du mat, meuble, tease, fait des hypothèses et pile quand ça démarre, problème technique, ça me rappelle ma première fois. Mais une fois l'incident résolu...
À la radio évidemment.
Oui, bien sûr. Une fois l'incident résolu, Olivier Véran nous a offert une prestation digne du plus grand cabaret du monde. Alors il s'appelle Olivier et son numéro est génial.
Non.
Il est équilibriste et il arrive à appeler à la responsabilité en soulignant que la situation est préoccupante tout en essayant de pas faire peur mais en dramatisant quand même un peu parce que c'est super tendu. Il est génial, quel funambule. Les rumeurs prédisaient de nouveaux seuils d'alerte super rouges et écarlates qui évoquent plus le nez de Jean Lassalle que le Covid. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas été retenus. Olivier Véran a finalement annoncé de nouveaux paliers. Zone alerte, pas top. Zone alerte renforcée, pas top du tout. Zone alerte maximale, là ça commence vraiment à sentir très mauvais. En revanche, si vous êtes en zone alerte cobra, ça n'a rien à voir si vous vous êtes endormi devant votre télé l'après-midi. C'est une série, hein, Eva, je te le rappelle.
On est d'accord.
À toutes fins utiles. Une carte et des annonces sanitaires que Denis Brognard avait prédit. Si, si. Son teasing de Koh-Lanta vendredi dernier colle étrangement à l'actu du moment. Écoutez.
La semaine prochaine, coup de tonnerre. Oubliez les quatre couleurs. Place au rouge. Toutes les cartes sont rebattues et l'aventure s'accélère.
Oui, sauf que dans Covid Lanta, on n'a pas de collier d'immunité, malheureusement. Et une nouvelle fois, Olivier Véran en a appelé à la vigilance et à la responsabilité sous peine de devoir aller plus loin, plus ferme. On dirait les parents dans Super Nanny. Antonin, si tu continues à faire le zozo, je te prive de sortie. Antonin, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 2, 1 quart. 2,5, 2, 3, 4. Alors, le pampan cucu va-t-il tomber? Réponse dans 15 jours.
Merci beaucoup, Bertrand Chameroy. C'est quoi ce son?
Ce son d'enfant qui crie?
Ouais, ouais, c'est un petit cousin.
Oui, ça, j'exploite ma famille.
C'est pas bien, c'est pas bien. Eva,
oui.
Eva en train de sécher ses larmes de rire,
oui.
De les Pardon. Essuyer. On passe avec vous au zapping du lendemain. Vous avez un temps d'avance sur nous, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai à chaque fois. Vous savez ce qu'il faut regarder ce soir. Vous avez retenu quoi ce soir? C'est quoi les thèmes?
Alors, c'est la disparition. Vous savez, un seul être vous manque.
Et tout est dépeuplé.
Bravo, Lamartine,
bravo.
Les méditations, baguette.
Oh là là, mais vous êtes trop fort. Exactement. Alors, pour Antoine, sa disparition et ce manque durent depuis des mois, depuis que sa sœur Anna a été tuée dans un attentat au Caire. Sauf que lui ne croit pas à cette version. Et sur une vidéo où apparaissent des combattantes kurdes, il est convaincu de reconnaître sa sœur. Il quitte donc son appartement bourgeois parisien pour la Syrie. Et quelques heures après son arrivée, il est enlevé par des femmes kurdes du groupe YPJ.
Faut que vous m'aidiez. Les autres, elles se plantent complètement.
Je t'ai posé une question. Qu'est-ce que tu fous là ?
Je suis venu chercher ma sœur. Elle est avec vous, avec le YPG. Il s'appelle Anna. Et son nom ici, c'est Chamaran.
T'as fait une belle connerie en venant ici. C'est vraiment pas le bon jour pour rejoindre Daesh.
Alors pour certains, cette guerre est un combat personnel, est-il indiqué dans le générique de cette série d'Arte intitulée No Man's Land. Excellente série franco-israélienne qui mêle thriller, espionnage et drame personnel. Des trajectoires humaines qui s'entrelacent avec en décor le conflit en Syrie. Et tout sonne juste grâce au scénario, à la réalisation et à l'interprétation notamment de Félix Moati et Mélanie Thierry dans les rôles principaux. C'est la série à voir sur Arte.tv et bientôt sur Arte la chaîne. Une sœur disparue donc d'un côté et une épouse de l'autre. Autre série, autre mystère. C'est sur Canal+, avec Zied, et température négative. Là, pour le coup, nous sommes en Antarctique, dans une station de recherche. 10 personnes sont isolées du monde pour mener leurs travaux durant l'hiver. 6 mois plus tard, Johan, le commandant de l'équipe de l'été, revient, et il y a comme un problème.
On connaissait ces gens, n'est-ce pas ? On était leurs amis. Ils étaient civilisés. J'arrive pas à comprendre qu'ils aient pu s'entretuer.
Et oui, parce que devant lui, 7 cadavres, une jeune femme a survécu, elle est traumatisée, parvient pas à raconter ce qui s'est passé. Et puis 2 personnes manquent à l'appel, dont la femme de Johan. Ambiance deep nègre donc en Arctique. Oui, oula. Ça y est, j'ai réussi à le dire. Suspense garanti pendant 6 épisodes avec la bonne musique angoissante et puis les rebondissements qu'il faut pour vous rendre addict. Une sœur disparue, une épouse et un ami, le meilleur ami, celui avec qui on fait toutes les conneries. W9 rediffuse le film de Guillaume Canet, Les Petits Mouchoirs avec Jean Dujardin, celui qui disparaît, Gilles Lelouch, Marion Cotillard, Valérie Bonneton, Benoît Magimel, Laurent Lafitte et François Cluzet. On le retrouve un peu énervé d'ailleurs pour une partie de 1, 2, 3 soleil menée par les enfants.
Dis donc, tu veux que je t'aide ? Ça te dérange pas de prendre mes enfants pour des cons ? Tu te fous de ma gueule ? Tu crois que je t'ai pas vu, petit tricheur de mes deux ? Les règles, c'est 1, 2, 3, soleil, et tu te retournes ! Et toi, tu fais 1, 2, tu te retournes ! 3, soleil ! Alors arrête, hein, ça va bien les conneries maintenant !
Bertrand ?
Moi, j'adore François Cluzet qui
mais
est tout le temps
à le refaire.
La règle, c'est 1, 2, 3, soleil ! Tu parles de ton fils, oh merde !
Voilà, quand les vacances entre potes tournent au règlement de compte et pour la seule prestation de François Cluzet ou de Bertrand, en mode énervé, le film mérite le détour. Donc je récapitule. L'excellente série No Man's Land est à voir sur Arte.tv. Le thriller glacial Zied rythme la soirée sur Canal+, à 21h05. Et Les Petits Mouchoirs avec Kleenex à proximité, c'est sur W9 à 21h05.
Merci beaucoup Eva Rock. Vous allez regarder quoi, François Cluzet ?
Mais j'ai regardé Les Petits Mouchoirs. Oh, merde.
C'était Bertrand Chameroy et son talent. Merci beaucoup. Dans un instant, l'auteur Franck Tilliez, notre invité, mais d'abord musique. C'est le nouveau titre d'Indochine, s'appelle Nos Célébrations.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Franck Tilliez.
Bonjour.
Vous êtes scénariste, mais surtout écrivain, de polar, une des plus grosses ventes françaises, pas seulement en France, 20aine de romans à votre actif, traduits dans 20 pays. Vous avez vendu plus de combien ? 5 millions de livres, vous en êtes à combien ?
Oui, 5 millions à peu près.
Certains adaptés au cinéma comme La Chambre des Morts. Et vous êtes également scénariste de la série Alex Hugo, qui cartonne sur France 2. Vous avez vu les chiffres hier ou pas ?
Pas encore, parce que c'est...
Mais c'est quoi ? Mais non, c'est tombé, il fallait écouter le journal de Charles de Caen. C'est tombé à 9h02, vous étiez en tête des audiences, toutes chaînes confondues, avec 5,6 millions de téléspectateurs. Et la semaine dernière, vous étiez encore en tête des audiences, mais avec une rediffusion, oui, ce qui est encore plus appréciable comme exploit. Mais là, vous êtes lancé dans la BD, ça s'appelle La Brigade des Cauchemars, énorme succès, c'est chez Jungle. On parle déjà d'une adaptation pour la télévision. Et le tome 4 vient de sortir, c'est à ça qu'on reconnaît une série qui marche, c'est quand il y a plusieurs épisodes. Ça s'appelle Mélissandre, cet épisode-là de La Brigade des Cauchemars. J'avoue que c'est assez difficile à résumer, puisque même le résumé en quatrième de couverture est lui-même complexe. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Qu'est-ce que vous avez dans votre tête pour en faire des histoires ? Racontez ce que ça raconte, si j'ose dire.
Oui, alors moi je suis connu pour écrire des histoires pour les adultes. Là, je voulais écrire pour un public plus jeune, entre 8 et 14, mais les adultes peuvent la lire, d'ailleurs, ils la lisent.
J'ai lu avec plaisir.
C'est un groupe d'enfants, trois lycéens, qui mènent une vie normale au lycée et qui, une fois le soir tombé, rentrent dans les cauchemars de jeunes patients qui ont des troubles du sommeil. Donc l'un des trois, qui s'appelle Tristan, est le fils du patron de la clinique du sommeil. Mmh. Et ce patron a inventé une machine incroyable qui fait que lorsqu'un patient est branché et qu'il est en train de cauchemarder, eh bien, ces lycéens peuvent ouvrir une porte dans la clinique. Et en fait, de l'autre côté de la porte, il y a le cauchemar qui est en train de se réaliser. Et ils vont essayer de le résoudre.
Ça rappelle un petit peu Dreamscape, le film dans lequel Dennis Quaid guérissait les traumas en pénétrant dans le rêve des patients. Ou Inception, oui. Où on perçait des secrets confidentiels. C'était des références. Vous avez pensé à ces films en écrivant ?
Oui, complètement. Moi, je suis fasciné à la base par le sommeil, les rêves, les cauchemars. Parce que un cauchemar, ça parle, ça explique quelque chose et ça a une raison d'exister. Mmh. Et c'est aussi une des forces de la BD, d'ailleurs.
Vous avez même explicité ça. Quand vous étiez enfant, vous avez raconté que vous faisiez des cauchemars atroces.
Ah oui.
Et ce que j'ai appris qui est assez fascinant chez vous, vous avez révélé que c'est, et je pense à tous les parents qui nous écoutent, que ces cauchemars ont disparu de votre tête lorsque vous êtes mis à écrire des histoires horribles.
Ah oui, alors ça c'est véridique. Ce n'est pas une invention de romancier ou d'écrivain, c'est-à-dire que je faisais un cauchemar récurrent. C'est une histoire de loup d'ailleurs qui venait, mais ce qui était terrible, c'est qu'à chaque fois que je me couchais le soir, je savais que j'allais faire ce cauchemar. Donc j'étais terrorisé d'aller au lit. Ça a été une période assez compliquée. Et c'est vrai qu'une fois que presque du jour au lendemain, quand je me suis mis à écrire mon premier roman, ce cauchemar s'est arrêté. Je pense que en fait, le fait d'écrire, ça a été l'extérioriser le cauchemar et le poser sur papier, finalement.
Et c'est encore plus riche sémantiquement que cela, parce qu'à l'intérieur même du cauchemar, il y a un jeu vidéo qui se met en route. en l'occurrence, Ghost in the Devil, c'est ça,
oui,
qui existe
oui.
Vraiment. C'est parce que vos enfants jouent à ça et que vous ne savez pas comment les extraire de ça, parce qu'il y a même une réflexion sur la dangerosité des jeux vidéo, ou plutôt leur inadéquation à la vraie vie.
Oui, mais vraiment, il y a ces messages-là dans la BD, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une histoire passionnante, il y a aussi des messages qui sont passés et qui parlent aux jeunes. Alors d'une part les cauchemars, c'est-à-dire pourquoi on cauchemarde, il y a toujours une raison derrière, un abandon, un divorce, des difficultés dans la famille, donc on essaie d'expliquer ça. Et puis effectivement dans celui-là il y a Ghost and Devil, alors moi c'était Ghost and Goblin, je jouais à ça quand j'étais jeune, et c'est vrai que c'est une référence. Et oui, il y a ce message-là.
Ils ont quel âge vos enfants ?
Moi, c'est 14 et 18 ans.
Et ils sont accros aux jeux vidéo. Il y a un message pour eux ?
Oui, il y a un petit message pour eux. Je crois que ça fait partie de leur génération, donc on ne peut pas leur enlever cela. Mais il faut faire attention, il faut être vigilant en tant que parent. Et c'est pour ça que c'est bien que les parents lisent aussi la BD, parents et enfants finalement.
Et puis c'est assez rare pour être signalé, et c'est moi qui le souligne et pas vous. Et à dessein, un des héros, un des protagonistes, Tristan, il est en fauteuil roulant.
Oui.
Et comme on dit, ça passe crème.
Oui, mais ça aussi, je crois que c'est ce qui plaît beaucoup, ce sont les personnages, mais comme quand on regarde des séries, on les regarde pour les personnages. Et ce personnage, il est handicapé, donc il souffre du regard des autres, hein, ça existe évidemment encore peut-être plus qu'avant dans le monde d'aujourd'hui. Et ce qui est génial, c'est que quand il rentre dans un cauchemar, il retrouve l'usage de ses jambes. Il redevient quelque part un enfant comme tous les autres. Et lui, quelque part, il préfère à la rigueur être dans un monde onirique, dans un monde qui n'existe pas, plutôt que dans la réalité. Donc il y a aussi ces messages-là. Est-ce qu'il vaut mieux vivre dans la réalité qui est dure, qui est difficile, qui demande un combat, ou vivre dans un monde un peu plus imaginé, où on est un peu libre de faire ce qu'on veut. Donc il y a aussi ces messages-là dans la BD.
Il y a beaucoup de choses totalement inattendues dans cette BD. Il s'appelle Mélissandre, c'est le tome 4 de la série La Brigade des Cauchemars. Et tout aussi inattendu, le portrait de vous, Franck Tillier, par Hélène Manarino. Elle arrive tout de suite. Donc à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Franck Tillier, La Brigade des Cauchemars, le tome 4 vient de sortir, c'est chez Jungle, c'est une bande dessinée et ça s'appelle Mélissandre, c'est le titre de l'épisode et je ne l'ai pas dit encore, c'est dessiné par Yongui Dumont. Vous êtes ch'ti ?
Oui.
Vous êtes de quel village ?
J'habite entre Lens et Béthune,
voilà.
Petite ville.
Elle doit être à 60 bornes de chez vous. Vous êtes voisin, je vous présente Hélène Manarino.
Oui, vive le Nord, Valenciennes. Moi, je viens de Valenciennes, voilà. Je suis ravie de le dire à la radio. Bonjour Franck Tillier.
Bonjour.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Celui que l'on nomme parfois l'auteur aux énigmes, vous allez peut-être ressentir un peu de suspense ce matin. Qu'allons-nous apprendre de vous ? Et surtout, qui a parlé ? Vous êtes notre victime dans Culture Média. Alors j'ai envie de vous dire, ça va F ? Et oui, vous aviez l'habitude d'appeler les gens par la première lettre de leur prénom.
C'est vrai ?
Oui, ça va P, par exemple.
H, voilà. Vas-y.
Ça limitait un peu le nombre.
Mais vous aviez quel âge quand vous avez inventé ce gag ?
Ah, on avait 4... Ouais, au collège.
D'accord, mais maintenant vous êtes adulte, ça vous fait encore marrer.
Oui, ça me fait rire.
On s'appelle encore comme ça. Donc, ouais.
Alors, F, on y va. Comme très bon enquêteur, vous êtes très organisé, vous respectez systématiquement votre planning. Et il faut que tout soit clair, vous aimez les choses simples, jamais sans votre sac en bandoulière noire. Vous êtes aussi un peu fleur bleue, c'est ce que la productrice, parfois d'Alex Hugo, vous disait souvent, puisque vous aimiez mettre pas mal d'émotions quand même. Alors, Franck Tillier, ce qui vous tient le plus à cœur, c'est votre liberté, oui. vous ne pourrez plus jamais, jamais retravailler dans un bureau. Non, une liberté que vous trouvez aussi dans le sport, la course à pied, le vélo, le sport depuis toujours, puisque quand vous étiez ado, vous vous leviez plus tôt pour aller au tennis avant d'aller en cours.
C'est incroyable parce qu'on passait des journées complètes sur les cours de tennis, donc on se levait à mais genre 6h du matin, quoi. Et ça nous arrivait de manger sur les cours, parce qu'en fait, dès qu'on quittait le cours, il y avait quelqu'un d'autre qui venait. Et donc, on restait dessus, on s'organisait pour squatter le cours jusqu'au...
Manger surtout des pommes, puisque vous mangiez beaucoup de pommes, bon, c'est vrai. Alors, une liberté dans les lieux aussi, le bord de mer, près de Calais, Berck, Merlimont. Et puis, une liberté qui vous emmène souvent ailleurs, en tournée, en dédicace. Et puis, parfois, vous êtes confronté à quelques aléas, comme ce jour où vous deviez partir à Brive, la nuit, en train couchette, sauf que votre train a eu du retard, beaucoup de retard. Donc votre train de nuit s'est transformé en train de jour. Alors vous êtes resté allongé pendant 6 heures.
Ah oui, mais le train de Brive, le train affrété pour le Salon du Livre, il a cette particularité où il n'y a pas de place assise.
Ouais.
Et donc c'est des couchettes, et si on veut rester assis, il faut se mettre un peu courbé sous la couchette du dessous ou se mettre allongé, mais bon, c'est pas évident.
Franck Dillier, liberté, oui, explorer, comprendre, décoder, vous avez soif d'apprendre en permanence. En ce moment, les drones. Et puis, avant cela, il y a eu les expérimentations scientifiques dans votre jeunesse. Après des heures passées sur Street Fighter, un jeu vidéo, la magie également, lorsque vous avez découvert David Copperfield. Le lendemain, vous êtes allé acheter un kit de magie. Vous faisiez des tours en famille et
oui,
ça marchait.
Oui. D'ailleurs, je m'y suis remis pendant le confinement. En fait.
Ah bon ?
C'était l'occasion de profiter de choses qu'on avait un peu laissées de côté. Et c'est un vrai plaisir de pratiquer aussi... cet art de l'évasion et de l'imaginaire, en fait.
Émerveillé par les talents, comme votre idole Christopher Nolan, avec qui vous rêvez de travailler, vous aimez aussi analyser les séries comme Game of Thrones, Walking Dead. Ce qui vous fascine, comment le réalisateur a-t-il travaillé, aidé votre plus jeune âge devant les Stephen King ou encore le film Seven. Ouais. Alors Franck Tillier, ce n'est pas tout, vous avez même tenté de vous glisser dans la peau de Bruce Lee. En essayant le nunchaku. Après l'avoir vu, vous êtes
sorti des archives.
En acheter un et vous vous êtes entraîné.
J'étais fan de Bruce Lee et j'avais acheté un nunchaku, mais normalement on commence avec un nunchaku en caoutchouc et moi j'ai acheté en métal ou en bois. Mettais des coups dans le coude. Ça déclenchait un courant électrique et j'étais couché par terre à chaque fois. Donc l'apprentissage a été compliqué.
Studieux, timide, calme, vous inventiez même des devoirs de maths dans votre chambre. Eh oui. D'ailleurs, on vous a souvent nommé le Google de la bande puisque vous saviez tout. Mais Franck Tillier, ce n'est pas uniquement ça. Non, c'est aussi un esprit de famille. Alors, il y avait des petites bagarres avec votre sœur pour terminer le pot de pâte à tartiner, évidemment. Vous passiez des heures ensemble devant Goldorak, Casimir. Il y avait votre chien aussi, un petit bichon tout blanc, Sonia.
Oui.
Et surtout,
c'est vrai.
Jamais sans votre doudou Nune. Que votre sœur vous cachait.
Je vais avoir un peu la honte là, parce que je l'ai gardé très longtemps.
C'est pas très longtemps, c'est quoi ?
Regarde ça. Il est encore caché derrière ma bibliothèque, je l'ai encore chez moi.
Et oui, alors Franck Tillier, il y a aussi donc, le sport, on l'a dit. Et un jour, vous êtes parti à la piscine à 20 bornes de chez vous en vélo. Quelqu'un a piqué toutes vos affaires dans votre casier. Vous avez dû revenir en vélo sur 20 bornes en slip de bain. Mais vous l'avez fait et on retrouvera le coupable. Alors il est temps de terminer par finalement le sujet qui vous passionne peut-être le plus, les rêves. Vous adorez les analyser, les contrôler sûrement parce que vous avez réalisé le vôtre, l'écriture. Alors de polar, oui c'est drôle quand on sait que votre hantise c'est de vous faire opérer. Et oui, un rêve en tout cas que vous avez vu naître il y a quelques années avec votre premier livre. Vous étiez à votre travail d'ingénieur, vous faisiez les photocopies vous-même de votre premier roman pour l'envoyer aux maisons d'édition. C'était 100 francs pour une reliure et vous sacrifiez votre salaire. L'enquête peut finalement s'arrêter là parce que vous n'avez jamais été aussi libre qu'aujourd'hui.
Merci beaucoup Alain Manarino. Vous êtes reconnu ?
Oui, c'était un beau voyage dans le passé. Toutes ces anecdotes, ça fait vraiment plaisir de les réentendre.
Voilà, je pense aux gens qui tremblent en lisant vos livres. Sachez que ce gars-là avait encore son doudou à 20 ans. Vous restez avec nous, Franck Tillier. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Franck Tillier, auteur de Polar, mais pas seulement, il est aussi le scénariste de... Je trouve plus le nom de la série...
Alex Hugo.
Oui, j'allais dire Hugo Clément, qui sera notre invité la semaine prochaine dans Culture Média. La Brigade des Cauchemars, vous êtes le scénariste. Le tome 4 vient de sortir chez Jungle, s'appelle Mélissant. Vous travaillez comment ? Vous ne faites pas qu'écrire. Non. Il y a beaucoup de recherches dans ce que vous faites.
Il y a beaucoup de recherches, même pour la BD, hein, l'air de rien, il y a des recherches, ça parle du sommeil. Alors je fais des recherches sur des sujets qui me passionnent, souvent scientifiques d'ailleurs.
Ouais, j'ai même pris des choses, la cryptozoologie.
Oui, c'est la recherche des animaux qui n'existent pas, comme le Yeti, ouais. Le Loch Ness, tout
mais
ça.
Mais grâce à ça, je l'ai appris par vous, on a découvert des animaux dont certains pensaient que c'était une croyance, par exemple le panda géant.
Oui, mais voilà, ça fait partie des sujets, en plus c'est des sujets là qui passionnent les plus jeunes, ça les concerne, et puis c'est vrai que moi pour mes romans c'est plutôt des sujets scientifiques qui tournent autour de l'être humain, de ce qui nous concerne, la mémoire, l'ADN, les microbes, voilà, tous ces sujets-là.
Alors je ne sais pas si ceux dont je vais vous parler relèvent du travail ou de l'intuition. Il y a 5 ans, vous avez publié Pandemia, ouais. L'histoire d'un virus qui se propage et qui crée une épidémie mondiale. Comment vous expliquez votre intuition après coup ?
J'écris des polars qui sont très contemporains et qui traitent de sujets qui se passent aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on fait des recherches dans le milieu scientifique, les microbes font partie de ce qui existe.
Là, quand même, ça ressemble beaucoup parce que, comme pour le Covid, votre virus, si j'ose dire, a été transmis à l'homme par des animaux semi-sauvages. En l'occurrence, ce n'était pas des pangolins en Chine, mais des cygnes en France. Oui. Et vous aviez des infos là-dessus. Vous saviez que ça venait des animaux ?
Ah oui. Je suis allé voir les chercheurs de l'Institut Pasteur de Lille, hein, qui est pas très loin de chez moi, qui sont les grands spécialistes des virus. Et je leur dis, mais quel virus faudrait choisir pour faire le plus peur aux gens ? Et moi, je pensais à Ebola, des virus très spectaculaires. Ils m'ont dit, non, il faut prendre une maladie comme la grippe, que tout le monde connaît, mais qui peut être très dangereuse. Et le coronavirus, c'est un peu ça, hein, c'est pour ça. On pense que c'est un rhume, mais c'est très, très mortel.
Et Nicolas Carreau avait justement parlé de votre livre, venu parler des romans. Oui, Nicolas.
Vous savez que les écrivains ont un don de voyance. Il y a un type qui avait écrit, qui s'appelle Pierre Bayard, qui avait écrit un livre qui s'appelle « Le Titanic fera naufrage » et qui parlait d'un roman qui a été écrit 20 ans avant le Titanic. Un roman qui expliquait qu'il y avait un bateau géant, qui était la gloire de la technologie moderne et tout ça, avec exactement le même nombre de passagers que sur le Titanic, la même longueur, la même largeur, incroyable, etc., qui s'appelait le Titan, et pas le Titanic, mais le Titan quand même, et qui coulait, etc. Et c'était exactement l'histoire du Titanic. Pas parce que les écrivains ont un don de voyance, mais parce que justement, ils observent leur temps, donc ils observent ce qui va se passer 10-15 ans plus tard.
Je ne vous ai pas présenté Nicolas Carreau, bonjour, je ne vous ai pas salué. Oui, ce matin, vous venez nous parler dans nos heures, parler de livres, un auteur qu'on aime tous les deux.
Oui, on en avait déjà parlé il y a un an de son dernier livre, Chronique d'une station-service, ouais. L'histoire d'un pompiste qui observe les clients de sa station, c'était très drôle, très intelligent. Mais en fait, Alexandre Labruf, l'auteur, est aussi attaché culturel. Et justement, juste après la parution des Chroniques d'une station-service, il part en poste en Chine à Wuhan.
Justement, ce qui fait lien avec ce qu'on disait avec Franck Tillier, l'épicentre de l'épidémie de coronavirus.
Voilà, et il en a tiré un livre, Un hiver à Wuhan, chez Vertical. Il arrive en novembre 2019 et assez vite, il va comprendre que quelque chose se passe à cause d'un accident.
Alors déjà, moi, je me retrouve à l'hôpital vers le 25 décembre parce que je me casse les côtes et je vois plein d'hommes masqués et surtout un médecin qui est francophone, qui est chinois francophone et qui n'est pas content de me voir. Et déjà, ça m'interroge et ensuite, le 31 décembre, par des réseaux alternative, j'apprends qu'il y a une épidémie à Wuhan, un virus sérieux, une résurgence du syndrome respiratoire qui est apparu en 2003. Et je suis aussi prévenu par des amis français et chinois, mais de manière complètement officieuse, parce qu'officiellement, les chiffres sont bloqués. On a posé un sarcophage sur les chiffres au tout début, pendant 15 jours.
Mais là, ce qu'il raconte est journalistique. Nicolas, c'est un roman ou c'est un récit ?
C'est un gonzo. Vous savez, vous adorez ce genre-là, Philippe. C'est comme Las Vegas Parano. Ce sont des récits, donc des écrivains qui racontent ce qu'ils voient, mais d'un point de vue hyper subjectif et avec leur vision du monde, ce qui tord un petit peu la réalité parfois. Mais les faits eux-mêmes sont vrais. Et dans le cas d'Alexandre Labruf, ça commence effectivement comme un roman de science-fiction, mais parce que le décor est fou. Il décrit Wuhan, qui est une mégalopole hallucinée et hallucinante, avec des robots et des caméras de surveillance partout.
C'est vrai qu'on arrive dans un environnement, dans une dystopie en fait, où c'est un environnement archipollué, cerné par des drones, des robots, des épidémies, des scandales sanitaires. Donc déjà, on est parano, avec aussi l'impression d'être surveillé, alors qu'il est fausse ou qu'il est vrai, en tout cas c'est une impression, et avec ce virus qui émerge. Donc déjà, on est encore plus paranoïaque, on est encore plus sur les gardes, et du coup, moi j'avais vraiment l'impression de vivre dans Blade Runner, et donc j'étais à l'affût. C'est Blade Runner remixé avec Contagion en fait.
Mais finalement, Alexandre Labruf qui nous parle ne sera pas confiné à Wuhan.
Et non, parce qu'il doit rentrer en France tout début janvier pour un festival littéraire, justement, 6 jours avant le confinement de Wuhan. Mais quand il rentre au pays, chez nous, l'hallucination continue.
Premièrement, je respire, je bois un café en terrasse. Enfin, j'ose sortir sans masque, parce que j'ai porté des masques et j'avais appliqué le gel hydroalcoolique depuis début janvier. Et effectivement, j'ai l'impression que je suis pris pour un fou quand je parle de cette épidémie qui va sans doute arriver bientôt au début. Même le numéro 15 que j'appelle deux fois, en fait, paniqué. Ma fille tombe malade un jour après que voilà, j'arrive le 16 janvier. Le 17 janvier, je vois ma fille. Le 23 janvier, elle tombe malade. Du coup, je pense qu'effectivement, je suis porteur du virus, mais asymptomatique, puisque j'ai aucun symptôme. Et quand j'appelle le 15, on prend encore pour un fou, en fait.
Et oui, parce qu'on ne le croit pas au 15 quand il dit qu'il est asymptomatique.
Et voilà, et on mesure la différence de prise en compte de la situation entre Wuhan et la France à ce moment-là, aussi parce que les Chinois font de la rétention d'informations. Mais ce livre, c'est pas seulement un récit sur le coronavirus. Labruf raconte ses expériences passé en Chine aussi, avant cette année-là, parce qu'il y a passé déjà plusieurs séjours, il y faisait du contrôle qualité dans les usines, et c'est au moins aussi fou que l'histoire de l'épidémie, c'est une sorte de concentré de la mondialisation, et c'est aussi très drôle et dingue quand c'est Alexandre Labruf qui l'écrit.
Je confirme, très bon livre, On hiver à Wuhan, je l'ai lu, il est sélectionné pour le prix de Flore.
Au passage, je vous signale qu'il y a un autre livre chez Stock, celui-là de l'écrivaine chinoise Fang Fang, Wuhan, ville close. Alors là, c'est tout autre chose, c'est son journal de confinement et c'est édifiant et très impressionnant.
Fontilier, réaction, ça vous intéresse ce genre de livre?
Oui, oui, mais c'est stupéfiant de voir la différence, enfin, quand il est revenu en France, que personne n'a pris en compte, parce que je sais que les virus sont très très surveillés, comme autant que les étoiles avec, par les télescopes, donc des gens savaient, les épidémiologistes savaient ce qui allait se passer, et que personne n'ait réagi, je trouve ça complètement
stupéfiant. Et il y a même des médecins qui disaient une grippette.
Mais oui, 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 c'est incroyable, et voilà, on paye un peu les pots cassés aujourd'hui.
Merci beaucoup Nicolas Carreau. Dans un instant, notre deuxième indispensable, c'est Laure d'Autriche qui sera avec nous, mais d'abord musique, quoi qu'elle va parler musique, c'est le nouveau titre du groupe français Kimber Rose, ça s'appelle « Back on My Feet ».
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Franck Tillier, Laure d'Autriche est avec nous, bonjour.
Bonjour.
On va parler de musique. Franck Tillier, c'est pas loin de chez vous ce qui se passe. Vous habitez à combien de kilomètres de Lens?
Je suis à 10 minutes, à quelques kilomètres.
Formidable, parce que c'est un festival de piano qui se tient au Louvre-Lens, c'est
oui,
bien ça?
Absolument, c'est le festival Musée Piano qui aura lieu à Lens, donc dans le Nord, tout ce week-end, dans le musée du Louvre-Lens, et qui a transformé toute sa programmation, évidemment en raison du Covid, pour respecter les règles sanitaires. Et vous allez voir, il y a beaucoup d'inventivité. Par exemple, durant tout le week-end, toutes les heures, la sonate au clair de lune de Beethoven sera jouée par un pianiste différent, 10 pianistes au total, pour permettre au public d'avoir accès justement à différents concerts en petit comité.
Je souris parce que ça n'a rien avec les règles sanitaires.
Alors si, parce que c'est pour avoir justement un public plus petit et permettre aussi à différents publics d'entendre ce chef-d'œuvre que je vais vous faire écouter tout de suite après. Alors, parmi les musiciens présents, il y a Gaspard Dehaene, un pianiste français de 33 ans. En période de Covid, aujourd'hui, il a 60% de concerts maintenus par rapport à son rythme habituel. Et lors de ce festival, justement, il va jouer lui aussi deux fois le même programme à la suite, lors de la même soirée, à deux publics différents, bien sûr, à cause de la limitation du nombre de personnes dans la salle. Il va jouer demain soir du Chopin. Ce que vous entendez là, c'est Chopin. Et écoutons Gaspard Dehaene.
C'est un petit peu éprouvant parce que voilà, il faut se mobiliser deux fois au lieu d'une, mais on joue jamais deux fois de la même façon, et surtout c'est l'occasion de corriger la deuxième fois ce qui n'a pas été la première fois, et ou alors voilà, peut-être d'essayer d'autres choses. Donc c'est une aventure nouvelle et ça permet en tout cas d'être encore plus intime et de se rapprocher. Voilà, plus on joue un programme, plus on se rapproche de ses œuvres, et ça c'est plutôt un gain finalement.
Et ce qu'on entend ici, c'est donc la fameuse sonate au clair de lune de Beethoven qui sera jouée donc par 10 pianistes différents durant ce week-end.
J'adore cette idée. Alors, est-ce qu'ils ont adapté le lieu sur place pour Franck Tillier? Est-ce qu'il va retrouver les concerts dans les salles du Louvre-Lens?
Oui, exactement. Alors, d'habitude, il y a 3-4 concerts dans ce festival. C'est la 5e édition. Mais cette fois-ci, 25 concerts, multiplier les concerts, les pianistes, les lieux aussi. Bien sûr, la scène du Louvre-Lens, c'est un musée, mais ils misent sur l'intimité, 40 personnes pour chaque concert, pas plus, et aussi pour que tout le monde puisse avoir la sensation de vivre un moment privilégié. Ça, c'est assez unique. On n'a pas ça dans tous les festivals. C'est ce qu'explique Rodolphe Bruno Boulmier, le directeur artistique du festival Musée Piano.
On va ouvrir un lieu qui est inédit, qui n'est jamais ouvert au public. Et on a décidé d'installer des pianos dans les galeries, dans les réserves. Ça s'appelle le quai des œuvres. C'est là que les œuvres sont entreposées lorsqu'elles ne sont pas exposées. C'est là où les collections arrivent. C'est dans les sous-sols du musée. C'est un lieu très intéressant parce que c'est un lieu un peu brut, un peu industriel, et qui du coup a beaucoup d'espace. Et donc là, on a décidé de faire des concerts ici aussi pour avoir un autre endroit, une autre jauge possible pour le public.
Et si vous voulez profiter de l'occasion pour peut-être découvrir la musique classique, pour aller peut-être à un concert classique pour la première fois, eh bien ce festival Musée Piano, je crois, est idéal parce que vous allez être proche des artistes. Puis ils vont aussi vous dire quelques mots sur les œuvres qu'ils vont jouer pour guider l'oreille. C'est donc le festival Musée Piano qui commence demain soir vendredi et qui se termine dimanche.
Merci beaucoup, Lord Autriche. Vous allez y aller ? Là, c'est oui. Bien vendu, hein. Mais on oui, a envie d'y être.
En plus, mon fils joue du piano, donc ça, je vais y aller avec grand plaisir.
C'est pas vrai, il n'est pas dans ce festival.
Non, il joue à titre personnel.
Et Louvre-Lens, vous êtes à côté, vous y allez souvent, régulièrement?
Oui, j'y vais, c'est un très beau musée qui est vraiment très joli. Il y a une expo qui est formidable en ce moment, qui s'appelle Soleil Noir, autour de la couleur noire. Et vraiment, j'incite tous les gens à aller dans les musées, et surtout en ce moment, on a besoin que la culture continue à vivre malgré l'existence du virus. Donc il faut vraiment soutenir les musées, les théâtres, les cinémas.
Et si vous allez ce week-end, vous aurez en plus la chance de voir Franck Tillier en chair et en os. Vous restez avec nous, on reste avec notre invité. Merci beaucoup, Lord Autriche. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
En compagnie de l'auteur Franck Tillier, les scénaristes du tome 4 de la Brigade des Cauchemars s'appelle Mélisande, c'est une bande dessinée. Ça se termine cette BD, je ne vais pas tout trahir, mais par un cliffhanger. Ah, donc oui. On sent qu'il y a un tome 5.
Oui, il y a un tome 5 que je suis en train d'écrire là en ce moment. Oui, tout à fait.
On voit ça que ça marche.
Oui, ça marche bien. Et le 5, ça va vraiment clore un peu peut-être le cycle. On aura toutes les réponses normalement aux questions qu'on se pose en tant que lecteur de cette série.
Et alors, la Brigade des Cauchemars, si je suis bien informé, va devenir un programme pour la télé. Ça sera en animation ou avec des vrais comédiens?
Ah, c'est une vraie série avec des vrais comédiens. On est en train de l'adapter vraiment en ce moment, donc ça bouge. Hein. Je suis en pleine écriture avec trois autres scénaristes. Mmh. On travaille à quatre sur le projet. On est en train d'écrire les épisodes. Ça sera une série en 8 épisodes pour la plateforme numérique, la plateforme de France TV.
Parce que c'est plutôt à destination de la jeunesse.
Oui, enfin. Non, c'est vrai, c'est beaucoup plus large public que peut-être que la BD, parce que évidemment c'est l'histoire d'adolescents qui, comme on l'expliquait tout à l'heure, qui vont dans ces cauchemars. Mais il y a une histoire de tueur en série en plus. Enfin, il y a des éléments qui viennent se greffer pour tenir sur une grosse série de 8 épisodes, comme on voit en ce moment sur toutes les plateformes. Donc on est en plein dedans et ça bouge pas mal. Ouais.
Vous avez d'autres projets, Franck Tillier. En 2017, vous aviez publié Charcot, qui était monté en tête des ventes dès la sortie. Le Parisien, à l'époque, on était en mai 2017, nous apprenait que pas moins de 10 producteurs s'étaient battus pour avoir les droits d'adaptation. Où est-ce que vous en êtes?
Oui, ça bouge aussi au niveau roman, parce que l'un de mes romans qui s'appelle Le syndrome, donc où on retrouve le personnage de Charcot, est aussi en cours d'adaptation, pour une série pour TF1 cette fois-ci, écrite par Mathieu Missoff, hein, qui est vraiment un excellent scénariste, et Scazal Film qui produit la série. Donc c'est vrai que ça bouge pas mal. On a besoin de séries en ce moment. Les chaînes ont besoin de séries, ont besoin de se renouveler, ont besoin que ça bouge. Et c'est tant mieux pour nous, les créateurs d'histoire. En
fait. Et là, vous avez un droit de regard. Comment ça se passe sur le casting, par exemple? Est-ce que vous pouvez nous dire des choses déjà?
Oui, enfin, non, alors sur le syndrome, je n'ai pas d'infos. Le droit de regard, en fait, ça se décide au moment de la cession des droits, c'est-à-dire qu'en général, les producteurs demandent si l'auteur veut participer à l'écriture. Mmh. Il se trouve que pour le syndrome, moi, j'avais laissé un peu de côté parce que j'avais d'autres projets en cours. Par contre, la Brigade des Cauchemars, par exemple, là, je participe vraiment et je m'occupe du projet à plein bras parce que c'est... J'adore la BD, j'adore cet univers et je vais vraiment essayer de faire la meilleure série possible pour les spectateurs.
Vous qui avez un imaginaire riche, le mot est faible, et même parfois, je ne vous connais pas, mais torturé, en tout cas à vous lire, on imagine qu'il est torturé. Comment vous avez vécu le confinement? Est-ce qu'il vous a inspiré? Je veux dire, le sens de ma question, il y a certains auteurs qui étaient complètement en surchauffe et d'autres au contraire totalement anesthésiés. Et vous-même, comment vous avez vécu ces moments-là?
Je crois que je n'ai jamais autant écrit que pendant le confinement. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup avancé. C'est un moyen de m'évader, c'est-à-dire je me mettais devant mes histoires à 8h du matin, je ressortais à 18h et ça m'a fait un bien fou parce que comme tout le monde, c'était complexe.
Mais c'est la catharsis, vous écriviez sur quoi? Des histoires horribles?
Mais oui,
de virus?
En plus j'écrivais des histoires horribles et les gens lisaient des histoires horribles aussi pendant le confinement, c'est pareil quoi, c'est-à-dire il y avait ce besoin de, même si c'était horrible, de s'évader par la fiction et quelque part on voyageait quoi, c'était un moyen de sortir de chez soi, d'éviter l'enfermement et moi ça a été bénéfique, mais je sais pour avoir posé des questions à des confrères qu'une fois sur deux, il y a le confrère qui n'a pas pu écrire parce que trop perturbé par ce qui se passait à l'extérieur, par ce monde qui évoluait trop vite. Quoi.
Et alors, quel sera le thème? Déjà que vous étiez comme ça torturé, mais alors torturé en plus par le confinement, quel sera le thème du prochain roman de Franck Tillier, si vous pouvez le dire?
Oui, alors...
Sur quoi vous avez écrit?
Oui, j'ai écrit le prochain roman qui sortira probablement en mai-juin de l'année prochaine, avec Charcot, qui est de retour. autour de l'univers un peu de tout ce qui est mental, manipulation mentale, justement la magie, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, c'est un univers qui m'a fasciné. Je prends toujours un gros sujet comme ça, donc j'ai bien creusé le sujet pour l'intégrer au cœur d'une grosse enquête de police judiciaire.
Mais ça sera noir et sombre.
Oui, bah comme toujours, et c'est ce que les lecteurs aiment, et c'est ce que j'aime écrire aussi.
Merci beaucoup Franck Tillier. Je rappelle cette BD Mélissandre, le tome 4 de la série La Brigade des Cauchemars, c'est chez Jungle. Nous on se retrouve demain à 9h pour Culture Média avec Ophélie Meunier pour un documentaire édifiant sur la prostitution adolescente en France, avec des témoignages, des chiffres qui font peur. Et puis Léna Situation, vous la connaissez ? Léna Situation, c'est l'une des youtubeuses françaises les plus connues, c'est un phénomène. Là, elle sort un guide pratique à destination des jeunes pour dire non à la déprime et oui à la joie. Il y en a une autre qui dit non à la déprime et oui à la joie, c'est Anne Romanoff. Ça fait du bien, ça arrive tout de suite. Moi, je vous dis à demain. Merci Franck Tillier.
Merci, au revoir.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.